4. Ned Land. Le commandant Farragut était un bon marin, dernier et la frégate qu'il commandait. Son navire et lui ne faisaient qu'un. Il en était l'âme. Sur la question du cétacé, aucun doute ne s'élevait dans son esprit, et il ne permettait pas que l'existence de l'animal fût discutée à son bord. Il y croyait comme certaines bonnes femmes croient un léviathan parfois, non par raison. Le monstre existait, il en délivrait les mers, il l'avait juré. C'était une sorte de chevalier de Rhodes, un dieudonné de Gozan, marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île. Le commandant Farragut tuerait le narwal, où le narwal tuerait le commandant Farragut, pas de milieu. Les officiers du bord partageaient l'opinion de leur chef. Il fallait les entendre causer, discuter, disputer, calculer les diverses chances d'une rencontre et observer la vaste étendue de l'océan. Plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les bars de perroquets qui eût maudit une telle corvée en toute autre circonstance. Tant que le soleil décrivait son arc diurne, la mâture était peuplée des matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds et qui n'y pouvaient tenir en place. Et cependant, l'Abraham Lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les yeux suspects du Pacifique. Quant à l'équipage, il ne demandait que rencontrer la licorne, à la harponner et à la hisser à bord, à la dépecer. Il surveillait la mer avec une scrupuleuse attention. D'ailleurs, le commandant Farragut parlait d'un certain comme de 2 000 $ réservés à quiconque, mousse ou matelot, maître ou officier, signalerait l'animal. Je laisse à penser si les yeux s'exerçaient à bord de l'Abraham Lincoln. Pour mon compte, je n'étais pas en reste avec les autres et je ne laissais à personne de ma part d'observation quotidienne. La frégate aurait eu 100 fois raison de s'appeler l'Argus. Seul entre tu, Conseil, protestait par son indifférence touchant la question qui nous passionnait et détonnait sur l'enthousiasme général du bord. J'ai dit que le commandant Farragut avait soigneusement pourvu son navire d'appareils propres à pêcher le gigantesque cétacé. Une baleinière n'eût pas été mieux armée. Nous possédions tous les engins connus, depuis le harpon qui se lance à la main, jusqu'à flèche barbelée des espignols et aux balles explosibles des canardières. Sur les gaillards devant s'allonger, un canon perfectionné, se chargeant par la culasse, très épais de parois, très étroite d'armes et dont le modèle doit figurer à l'exposition universelle de 1867. Ce précieux instrument d'origine américaine envoyait sans se gêner un projectile conique de 4 kg à une distance moyenne de 16 km. Donc, le Abraham Lincoln ne manquait d'aucune moyenne de destruction. Mais il avait mieux encore. Il avait Ned Land, le roi de Harpooners. Ned Land était un Canadien d'une habileté de main peu commune et qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier. Adresse et sang-froid, audace et russe, il possédait ces qualités à un degré supérieur et il fallait être une baleine bien malignée ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Ned Land avait environ 40 ans. C'était un homme de grande taille, de plus plus de 6 pieds anglais. Vigoureusement bâti, l'air grave, peu communicatif, violent parfois, et très rageux quand on le contrariait. Sa personne provoquait l'attention et surtout la puissance de son regard qui accentuait singulièrement sa physionomie. Je crois que le commandant Farragut avait sagement fait d'engager cet homme à son bord. Il fallait tout l'équipage, à lui seul, pour l'eau et le bras. Il ne saurait le mieux comparer qu'à un télescope puissant qui serait en même temps un canon toujours prêt à partir. Qui dit Canadien, dit Français, et si peu communicatif que fut Ned Land, je dois avouer qu'il se prit d'une certaine affection pour moi. Ma nationalité l'attirait sans doute. C'était une occasion pour lui de parler et pour moi d'entendre cette vieille langue de Rabelais qui est encore en usage dans quelques provinces canadiennes. La famille de Harpreneur était originaire de Québec et formait déjà une tribu de hardis pêcheurs à l'époque où cette ville appartenait à la France. Peu à peu, Ned prit goût à causer et jamais à entendre les récits de ses aventures dans les mers polaires. Il racontait ses pêches et ses combats avec une grande poésie naturelle. Son récit prenait une forme épique et je croyais écouter quelques homères canadiens chantant l'Iliade des régions hyperboréennes. Je dépeins maintenant ce hardi compagnon tel que je le connais actuellement. C'est que nous sommes devenus de vieux amis, unis de cette inaltérable amitié qui naît et se ciment dans les plus effrayantes conjectures. Ah, brave Ned, je ne demande qu'à vivre 100 ans encore pour me souvenir plus longtemps de toi. Et maintenant, quelle était l'opinion de Ned Land sur la question du monstre marin? Je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne et que, seul à bord, il ne partageait pas la conviction générale. Il évitait même de traiter le sujet sur lequel je crus devoir l'entreprendre un jour. Par une magnifique soirée de 30 juillet, c'est-à-dire 3 semaines après notre départ, le frégate se trouvait à la hauteur du Cap Blanc, à 30 milles sous le vent de côté Patagone. Nous avions dépassé le tropique du Capricorne et le détroit de Magellan s'ouvrait à moins de 700 milles dans le sud. Avant 8 jours, l'Abraham Lincoln sillonnerait les flottes du Pacifique. Assis sur le dunette, Ned Land et moi, nous causions des choses et d'autres, regardant cette mystérieuse mer dont les profondeurs sont restées jusqu'ici inaccessibles au regard de l'homme. J'emmenais tout naturellement la conversation sur le lican géant et j'examinais les diverses chances de succès ou d'insuccès de notre expédition. Puis, voyant que Ned me laissait parler sans trop rien dire, je le poussai plus directement. « Comment, Ned ?» lui demandai-je. « Comment pouvez-vous ne pas être convaincu de l'existence du cétacé que nous poursuivons ? Avez-vous donc des raisons particulières de vous montrer si incrédule ?» Le harponneur me regarda pendant quelques instants avant de répondre, frappa de sa main son large front par un geste qui lui était habituel, ferma les yeux comme pour se recueillir et dit enfin « Peut-être bien, monsieur Aronnax. Cependant, Ned, vous, baleinière de profession, vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins, vous dont l'imagination doit aisément accepter l'hypothèse de cet assez énorme, vous devriez être le dernier à douter en de pareilles circonstances. C'est ce qui vous trompe, monsieur le professeur, répondit Ned, que le vulgaire croit à des comètes extraordinaires qui traversent l'espace ou à l'existence de monstres antédiluviens qui peuplent l'intérieur du globe. Pas encore, mais ni l'astronome ni le géologue n'admettent de telles chimères, de même le baleinier. J'ai poursuivi beaucoup de cétacés, j'en ai harponné un grand nombre. J'en ai tué plusieurs, mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent, ni leur queue ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer. Cependant, Ned, on cite des bâtiments que le dent du Narwhal traversait de part en part. Des navires en bois, c'est possible, répondit le Canadien, et encore je ne les ai jamais vus. Donc, jusqu'à preuve contraire, je nie que baleine, cachalot ou licorne puissent produire un pareil effet. Écoutez-moi, Ned. Non, monsieur le professeur, non. Tout ce que vous voudrez, excepté cela. Un poulpe gigantesque, peut-être? Encore moins, Ned, les poulpes n'est qu'un mollusque, et ce nom même indique le peu de consistance de ses chairs. Eut-il 500 pieds de longueur, le poulpe, qui n'appartient point à l'embranchement des vertébrés, est tout à fait inoffensif pour les navires tels que le Scotia ou l'Abraham Lincoln. Il faut donc rejeter au rang des fables le prose, prusse, des kraken ou autres monstres de cette espèce. Alors, monsieur le naturaliste, reprit Ned Land d'un ton assez narquois, vous persistez à admettre l'existence d'un énorme cétacé? Oui, Ned, je vous le répète avec une conviction qui s'appuie sur la logique des faits. Je crois à l'existence d'une mammifère puissamment organisée appartenant à l'embranchement des vertébrés comme les baleines, les cachalots ou les dauphins et munie d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême. Fit le harponneur en secouant la tête de l'air d'un homme qui ne veut pas se laisser convaincre. « Remarquez, mon digne Canadien, repris-je, que si un tel animal existe, s'il habite les profondeurs de l'océan, s'il fréquente les couches liquides situées à quelques milles au-dessus de la surface des eaux, il possède nécessairement un organisme dont la solidité défie toute comparaison. Comparaison. » Et pourquoi cet organisme si puissant? Demanda Ned. Parce qu'il faut une force incalculable pour se maintenir dans les couches profondes et résister à leur pression. Vraiment? Dit Ned, qui me regardait en clignant de l'œil. Vraiment? Et quelques chiffres vus le prouveront sans peine. Oh, les chiffres? Répliqua Ned. On fait ce qu'on veut avec les chiffres. En affaire, Ned, mais non en mathématiques. Écoutez-moi, admettons que la pression d'une atmosphère soit représentée par la pression d'une colonne d'eau haute de 32 pieds. En réalité, la colonne d'eau serait d'une moindre hauteur puisqu'il s'agit de l'eau de mer dont la densité est supérieure à celle de l'eau douce. Eh bien, quand vous plongez, Ned, autant de fois 32 pieds d'eau au-dessus de vous, autant de fois votre corps supporte une pression égale à celle de l'atmosphère, c'est-à-dire des kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface. Il suit de là qu'à 320 pieds, cette pression est de 10 atmosphères, de 100 atmosphères à 3200 pieds et de 1000 atmosphères à 32 000 pieds, soit 2 lieues et demi environ. Ce qui équivaut à dire que si vous pouviez atteindre cette profondeur dans l'océan, chaque centimètre carré de la surface de votre corps subirait une pression de 1000 kg. Or, mon brave Ned, savez-vous ce que vous avez de centimètres carrés en surface? Je ne m'en doute pas, monsieur Anorax. Environ de 17 000. Tant que cela, et comme en réalité la pression atmosphérique est un peu supérieure au poids d'un kilogramme par centimètre carré, vos 17 000 centimètres carrés supportent en ce moment une pression de 17 507 une pression de 17 568 kilogrammes. Sans que je m'en aperçoive, sans que vous vous en aperceviez. Et si vous n'êtes pas écrasé par une telle pression, c'est que l'air pénètre à l'intérieur de votre corps avec une pression égale. De là, un équilibre parfait entre le pulsé antérieur et le pulsé extérieur qui se naturalise, ce qui vous permet de les supporter sans peine. Mais dans l'eau, c'est autre chose. Oui, je comprends, répondit Ned, devenu plus attentif, parce que l'eau m'endure et ne me pénètre pas. Précisément, Ned, ainsi donc, à 32 pieds au-dessus de la surface du mer, vous subiriez une pression de 17 568 kilogrammes. À 320 pieds, 10 fois cette pression, 75 680 kilogrammes. À 3200 pieds, 100 fois cette pression, soit 1756 800 kilogrammes. À 30 000 pieds, enfin 1000 fois cette pression, soit 17 568 000 kilogrammes. C'est-à-dire que vous seriez aplati comme si l'on vous retirait des plateaux d'une machine hydraulique. Diable, fit Ned. Eh bien, mon digne harponneur, si des vertèbres longues et plusieurs centaines de mètres et grosses à proportion se maintiennent à de pareille profondeur, eux donc la surface est représentée par des millions de centimètres carrés. C'est par milliards de kilogrammes qu'il faut estimer la poussée qu'ils subissent. Calculez alors quelle doit être la résistance de leur charpente osseuse et la puissance de leur organisme pour résister à de telles pressions. Il faut, répondit Ned Land, qu'il soit fabriqué en plaques de tôle de 8 pouces, comme les frégates cuirassées. Comme vous dites, Ned, et songez alors aux ravages que peut produire une pareille masse lancée avec la vitesse d'un exprès contre la coque d'un navire. Oui, en effet, peut-être, répondit le Canadien, ébranlé par ces chiffres, mais qui ne voulait pas se rendre. Eh bien, vous ai-je convaincu? Vous m'avez convaincu d'une chose, monsieur le naturaliste, c'est que si de tels animaux existent au fond de mer, il faut nécessairement qu'ils soient aussi forts que vous les dites. Mais s'ils n'existent pas en tête des harponneurs, comment expliquez-vous l'accident arrivé au Scotia? C'est peut-être, dit Ned hésitant. Allez donc, parce que ça n'est pas vrai, répondit le Canadien, et reproduisant sans le savoir une célèbre réponse de Arago. Mais cette réponse prouvait l'obstination du harponneur et pas autre chose. Ce jour-là, je ne le poussais pas davantage. L'accident de Scotia n'était pas niable. Le trou existait si bien qu'il avait fallu le boucher, et je ne pense pas que l'existence de trou puisse se démontrer plus catégoriquement. Or, ce trou ne s'était pas fait tout seul, et puisqu'il n'avait pas été produit par des roches sous-marines ou des engins sous-marins, il était nécessairement dû à l'utile perforant d'un animal. Or, suivant moi, et toutes les raisons précédemment détruites, précédemment déduite, cet animal appartenait à l'embranchement des vertébrés, à la classe des mammifères, au groupe des pisciformes et finalement à l'ordre des cétacés. Quant à la famille dans laquelle ils prennent rang, baleine, cachalot ou dauphin, quant au genre dont ils faisaient partie, quant à l'espace dans lequel ils convenaient de le ranger, c'était une question à élucider ultérieurement. Pour le résoudre, il fallait disséquer ce monstre inconnu. Pour le disséquer, pour le prendre le harponneur, ce qui n'était l'affaire de Ned Land. Pour le harponneur, le voir, ce qui était l'affaire de l'équipage. Et pour le voir, le rencontrer, ce qui était l'affaire du hasard.